Quelle est l'importance à Noël? Quelle est l'importance de fêter Noël? Une des choses les plus importantes avec Noël, c'est que nous commémorons en fait la naissance de Jésus. Et en fait, nous commémorons son incarnation. L'incarnation de Dieu. Le fait que Dieu prenne chair. Le fait que Dieu qui est esprit prenne corps, devienne humain comme nous. Pourquoi est-ce que c'était important que Jésus s'incarne? Quelle est l'importance de l'incarnation de Dieu? Quelle est l'importance du fait que Jésus prenne corps humain pour venir parmi les hommes? Jésus reçoit le nom d'Emmanuel, Ésaïe chapitre 7, le verset 14 que nous avons lu. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi les humains, Dieu parmi nous. Une réalité qui est propre au christianisme. Aucune autre religion n'a cette réalité-là. C'est seulement le christianisme. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs traces, plusieurs faits qui montrent que Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple, a cherché à habiter au milieu de son peuple. L'un des plus grands rendez-vous manqués de Dieu avec son peuple, vous le connaissez. Moïse était sur la montagne, en train de recevoir les 10 commandements. Dieu se préparait à venir habiter au milieu de son peuple. Le peuple a vu que Moïse tardait. Le peuple a dit, peut-être qu'il est mort là-bas, le vieux Moïse. Là. Nous, peut-être que ce serait mieux de changer de religion. Allez, Aaron, fais-nous une créature, fais-nous un dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont fait le veau d'or, qu'ils ont adoré. Et ça a été le rendez-vous manqué. Parce que Dieu qui voulait venir au milieu de son peuple n'a pas su venir. Et plusieurs autres rendez-vous étaient là aussi, des différentes manifestations de Dieu qui veut venir au milieu de son peuple, qui veut habiter parmi son peuple. Et des rendez-vous qui étaient chaque fois manqués à cause de notre dureté du cœur, à cause de notre méchanceté. Beaucoup de prophéties avaient pourtant annoncé que Dieu allait un jour habiter au milieu de son peuple, qu'un jour Dieu allait venir sauver son peuple. Dieu n'a pas renoncé, malgré la méchanceté de l'homme, Dieu n'a pas renoncé à ce rendez-vous, à cette rencontre avec les hommes. Moi, ce qui me frappe, c'est que Dieu avait promis de venir lui-même sauver son peuple. Et l'incarnation, en fait, de Jésus-Christ est vraiment l'aboutissement de toutes ces révélations-là. L'aboutissement de la manifestation de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, l'aboutissement du désir de Dieu de venir parmi les hommes. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé qu'il enverrait un Messie. Messie ou Christ, c'est le même mot. Messie en hébreu et Christ en grec. Dieu avait annoncé que ce Messie devait être le Seigneur, le Fils de Dieu. Et que il serait issu de la postérité de la femme. N'êtes-vous pas frappé par le fait que lorsque Dieu parle de son intervention, psaume 2, j'ai demandé à ce qu'on relève ce psaume, tu as oublié ta... Pourquoi ce tumulte parmi les nations, les vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint, son Messie? Et regardez sa caractéristique. Alors d'abord, verset 3, ce sont les rois qui disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et celui qui est au siège, c'est celui qui siège dans les cieux, donc Dieu rit. Le Seigneur se moque de puis, il parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Voyez, on peut continuer le verset 12. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Le Messie devait être le fils de Dieu. C'est ce que ce psaume dit. Il devait être descendant d'Abraham. Nous l'avons vu dans la généalogie. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il devait être issu de la postérité de la femme. Genèse chapitre 3, verset 15, lorsque Dieu dit à Satan, « Puisque tu as fait cela, la postérité de la femme t'écrasera la tête. » Il devait être issu de la tribu de Judas. Vous avez déjà lu la prophétie, la bénédiction prophétique de Jacob et, dans Genèse chapitre 44, 49. Vous verrez là l'allusion à Judas, le lien entre Judas et le lion, et le lien entre Judas le lion et le Shiloh. C'est Jésus-Christ. On parle de Jésus. Il devait donc être de la tribu de Judas. Il devait être de la dynastie de David. Ésaïe chapitre 11, le rejeton de David, de la branche de David, de la branche de Isaïe, naîtra un rejeton qui dominera. Il devait être aussi un homme de douleur. Ésaïe 53, habitué à la souffrance. Toutes ces révélations de l'Ancien Testament se sont manifestées et se sont concrétisées en quelque sorte dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Quelle gloire ? Une gloire unique comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ est la manifestation, la concrétisation, l'aboutissement de toutes les prophéties messianiques. C'est Dieu qui vient visiter. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, sous la loi. Il a envoyé son fils. Que dire de Colossiens, chapitre 2, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est pleinement humain et il est pleinement Dieu. Nous savons comment s'est opérée l'incarnation. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé avec Marie. Mais j'aimerais encore continuer à affirmer ce que Jésus dit. Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, et c'est une phrase provocante, hein, il leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous savez, en disant ça, il disait littéralement, c'est moi Dieu. Je suis Dieu. Et d'ailleurs, c'est normal, puisque s'il a existé avant Abraham, Jésus est Dieu. Il affirme sa divinité. Et pourtant, il est pleinement homme. Jean chapitre 1, verset 30. Voilà ce que Jean-Baptiste dit de lui. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un Dieu. Non, un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Un homme, il est pleinement homme. Et pourtant, au verset 34, toujours dans 1 Jean, dans Jean, il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Homme pleinement, pourtant Dieu pleinement aussi. C'est un privilège donc pour nous aujourd'hui, et nous pouvons comprendre l'attitude des mages devant l'enfant qui vient de naître. Il le voit, il se prosterne, il l'adore. Oui, il l'adore, parce qu'il est Dieu. On peut comprendre les paroles de Marie, on peut comprendre les paroles de Siméon, on ne peut pas comprendre l'étonnement des bergers. Quel privilège, quel honneur. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous? N'est-ce pas une nouvelle qui devrait être un grand sujet de joie pour nous aujourd'hui? Quelle est l'importance? Pourquoi est-ce que Jésus, pourquoi est-ce que c'est important pour Dieu de s'incarner? À part l'idée que c'est dans son projet le plus profond, depuis le péché, son projet de venir habiter au milieu de son peuple. Quelle importance? Je voudrais souligner ici deux choses importantes pour lesquelles l'incarnation est quelque chose d'important. Jésus devait s'incarner, Dieu devait porter la chair humaine. Pas simplement parce que à travers cela, il manifeste une double nature, mais l'incarnation manifeste aussi la gloire d'un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui tient promesse et qui accomplit ses promesses. Un Dieu puissant, un Dieu saint. Il n'y a rien d'étonnant que Jean puisse dire, c'est la parole qui s'est faite chair. Jésus vient nous révéler le Dieu que nous connaissions d'une manière imparfaite. Il vient nous le révéler d'une manière pleine. Il vient nous le révéler véritablement. Il vient nous faire connaître Dieu, comme jamais on l'avait connu auparavant. Ça, c'est la première raison. Il fallait que nous puissions avoir un visage à mettre devant Dieu, des actes, des attitudes, des comportements à mettre pour dire, voilà Dieu. Voilà Dieu. La deuxième raison, la deuxième importance, c'est que l'incarnation est en rapport avec l'œuvre du salut, avec le fait que Dieu a programmé, a prévu, a mis en place un projet pour nous sauver. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. En conséquence, on parle de Jésus, il a dû être rendu semblable à, en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ce texte résume assez bien les choses. Jésus est venu comme souverain sacrificateur, c'est-à-dire celui qui vient au service de Dieu pour présenter les sacrifices, pour présenter les sacrifices en faveur du peuple. Celui qui vient pour se mettre entre le peuple et Dieu et demander des faveurs de la part de Dieu. Jésus est venu pour accomplir ce travail. À la fois, le sacrifice n'est pas seulement l'idée qu'il intercède seulement favorablement pour nous, mais il est lui-même le sacrifice. Il vient pour mourir à la croix. Il vient pour réaliser l'œuvre du salut pour les hommes par la mort à la croix, en mourant sur la croix. Il est donc devenu le sacrifice parfait de Dieu, l'agneau de Dieu. Il est aussi non seulement le sacrifice parfait, mais il devient aussi le sacrificateur parfait. Celui qui est la mieux placée devant Dieu pour demander la faveur pour nous les hommes. La personne la mieux placée. L'avocat le mieux équipé. L'avocat dont la voix est favorable aux yeux de Dieu. Jésus-Christ donc devait s'incarner pour que, par son incarnation, nous connaissions Dieu, mais aussi pour que le salut soit possible, que nous puissions être sauvés. Alors, évidemment, l'œuvre du salut est une œuvre incroyable. Le temps nous manquerait de relever tous les avantages de l'œuvre du salut. Mais en restant simplement dans ce texte d'Hébreu au chapitre 2, je n'ai pas relevé la partie qui était au-dessus, eh bien, nous constatons que l'œuvre du salut permet que, l'œuvre du salut permet que la puissance du diable devienne inefficace. L'œuvre du salut a rendu inefficace la puissance du diable sur nous. En nous sauvant, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. L'œuvre du salut nous permet d'être délivrés de l'esclavage du péché. Et l'œuvre du salut, par sa mort, Jésus nous permet de pouvoir être sanctifiés, mis à part, trouvés favorables aux yeux de Dieu. Ainsi, je vous ai dit que je ne vais pas faire une longue prédication. Ainsi, dans l'incarnation se rencontre à la fois le Dieu glorieux, le Dieu de toute gloire, le Dieu puissant, le seul vrai Dieu, et l'homme parfait, mais qui est un homme qui va accepter la douleur, qui va accepter les humiliations, qui va accepter d'être meurtri dans sa chair, qui va accepter toutes sortes de souffrances et d'opprobre. Un homme parfait qui va s'abaisser pour un temps, qui va accepter des conditions qui ne sont plus des conditions royales, mais des conditions bassement humaines. Dans l'incarnation se trouve cette rencontre. Et dans l'incarnation, Dieu accomplit le salut et il peut enfin habiter au milieu de son peuple, à travers le Saint-Esprit. Le désir de Dieu de tout temps est ainsi aussi rencontré, accompli. N'est-ce pas un mystère? Timothée 1, 1 Timothée 3, 16. J'aime bien cette exclamation de l'apôtre Paul, qui dit, et c'est sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est le même Dieu. Alors, quelle merveilleuse perspective, n'est-ce pas, que Noël nous trace, n'est-ce pas? Quelle merveilleuse perspective, puisque nous voyons que tout est finalement pour nous, pour notre avantage, pour notre intérêt. Alors, soyons dans la joie. Et allons avec cette joie, la joie de savoir que nous avons un sauveur qui a traversé les cieux, qui est venu jusqu'à nous. Un sauveur qui nous comprend, un sauveur qui nous aime. Un sauveur qui nous défend. Il est lui-même dans sa condition humaine, ayant vécu la condition humaine, il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos souffrances. Il peut compatir. Merveilleuse perspective, n'est-ce pas? À travers Noël, voyons cela aussi. Voyons cette œuvre-là. Amen.